Hey, how you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Dévilaire.
L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio.
These violent delights have violent ends.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on imagine, on dessine, on coupe, on coud, on crée et on admire les volants, les froufrous, les jupons, les chapeaux. Bienvenue dans l'univers de la mode.
Je n'ai jamais beaucoup aimé les mondanités. Et je ne me suis jamais considéré comme un artiste. Moi, je veux coudre. Voilà. Marlène Dietrich, Grace Kelly. Et voilà qu'aujourd'hui, je vais habiller la nouvelle reine des Belges.
On a enfin trouvé un rival à Balenciaga.
Christian Dior, le costumier?
Il ne serait pas en train de te plagier?
Certaines de nos meilleures clientes se sont tournées vers Dior.
Toutes mes clientes ont des complexes, c'est évident. Mon rôle, c'est de les cacher.
Quelqu'un nous a dans le collimateur.
Je ne m'exposerai pas maintenant. Je ne veux rien avoir à faire avec la haute couture. Je ne supporte pas ce monde-là. J'ai peur de ce qu'on dira de moi quand je ne serai plus là.
Car oui, bien des séries ont décidé de broder la biographie des stylistes, couturiers, créateurs et créatrices de vêtements. Cristobal Balenciaga, Christian Dior, Coco Chanel ou encore Karl Lagerfeld envahissent les petits écrans. Je suis Margot Barallon, journaliste indépendante et pour ce podcast dédié aux séries et à la mode, je suis ravie d'être si bien entourée. D'abord par Benoît Franquebalm, journaliste indépendant qui confectionne des articles, entre autres pour Marianne et le Parisien Weekend. Salut Benoît.
Salut Margot.
Et Benoît, on retrouve également ta carte blanche en fin d'épisode. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de cette agaçante manie contemporaine de vouloir relier chaque série à notre époque, alors que le pouvoir de la fiction se suffit très bien à lui-même.
Très bien, on va voir ça donc en fin d'épisode. Nous sommes aussi avec Constance Jamet, infatigable dentelière pour le Figaro. Salut Constance.
Bonsoir.
Et nous avons le plaisir de recevoir François Siméon, chef tailleur sur la série The New Look. Mais vous avez aussi travaillé, et vous êtes même en train en ce moment de travailler, sur les costumes de Paris Police, diffusé sur Canal+. Bonjour François.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un épisode et j'arrête, spécial mode et série, c'est parti.
Could influence how thousands of ordinary women dream and live. But fashion needs a new leader. A figurehead. Monsieur Dior.
On vient d'entendre le générique de la série The New Look, disponible sur Apple TV+. Alors pour la résumer brièvement, c'est l'histoire de l'ascension de Christian Dior juste après la Seconde Guerre mondiale. Et la série fait en fait des allers-retours entre ce qui s'est passé pendant le conflit, et toutes les maisons de couture ne l'ont pas vécu de la même manière, et l'après, quand il va s'agir de réinventer la mode. François Siméon, je me tourne d'abord vers vous. Vous avez donc été chef tailleur sur cette production qui est vraiment une super production.
Super production
franco-américaine, oui. Casting international. Juliette Binoche dans le rôle de Coco Chanel, Ben Mendelsohn dans celui de Dior, juste pour les citer eux. C'est quoi exactement d'abord pour commencer chef tailleur ?
Chef tailleur, c'est quelqu'un qui est en relation tout de suite avec un costume designer et qui va couper, prendre des mesures, couper des patrons, ensuite couper du tissu et fabriquer des vêtements. Voilà. Avec toute une équipe. Et d'ailleurs, avant toute chose, je voudrais vous remercier de m'avoir invité, parce que je trouve qu'on parle assez rarement des gens qui sont dans l'ombre, et on invite souvent les gens qui sont plus dans la lumière, tout ça. Bon, si on a choisi ce métier, c'est aussi pour être dans l'ombre, mais c'est bien aussi de pouvoir parler...
Prendre la lumière de temps en temps.
Oui, et puis la lumière, non, mais parler du travail qu'on fait et des gens avec qui on travaille, qui sont des artisans magnifiques, quoi.
Et alors justement, c'était comment cette expérience sur ce qu'on imagine être vraiment un gros morceau ? On le disait, c'est vraiment une super production.
Super production qui a duré 12 mois. Un casting international, mais John Malkovich, Glenn Close, Binoche, c'était Moi, c'était ma première série, donc ça a été une hallucination pour moi. Ça fait très longtemps que je fais ce travail. Je l'ai fait pour le spectacle vivant, pour des tas de spectacles, même Zingaro. Et ça a été une révélation. De rester 12 mois à travailler sur les mêmes personnages, en décidant quels détails allaient changer sur certaines tenues. C'est historique. C'est les années 40, c'est la guerre. Et c'est vrai. C'est des vrais personnages. Donc c'est vraiment historique et vraiment une histoire de notre histoire de France.
C'est ce qui vous plaît le plus, les costumes justement des séries historiques ?
Oui. Et surtout cette période qui va de 1900 aux années 70, c'est vraiment un travail de coupe et de détails, en fait, qui sont très enrichissants, en fait.
Ouais. Constance, Benoît, à vous, qu'est-ce qu'on a pensé ici de la série The New Look ? Allez, Constance, tu commences.
Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je ne connaissais pas vraiment l'histoire de Christian Dior, un peu plus celle de Chanel, mais pas beaucoup celle de Christian Dior pendant la guerre. Je trouve que c'est une série plutôt historique que plutôt une série sur la mode. C'est un peu paradoxalement, peut-être mal nommé, ça parle moins de The New Look pour moi que de la guerre et de la mode. Et pour moi, c'est un peu un village français chez les grands couturiers. Et c'est peut-être un peu cette dichotomie entre le soin apporté à la culture historique et le propos même, qui n'est pas forcément contenu dans la promesse du titre, qui à un moment a peut-être créé un petit décalage sur mes attentes. Mais je trouve que la série est très solide dans la reconstitution et très touchante quand elle aborde aussi bien la trajectoire de la sœur de Christian Dior qui finit déportée parce qu'elle est résistante, que la trajectoire plus trouble de Coco Chanel, qui est très ambiguë, très ambivalente. Et paradoxalement, dans The New Look, c'est Christian Dior qui est plutôt toujours assez nébuleux, toujours assez opaque et assez en retrait. C'est peut-être un petit peu la réserve que j'aurais sur la série, finalement. Je ne suis pas sûre que je l'aurais appelé The New Look.
Benoît, de ton côté ?
Alors moi, je ne suis pas un grand amateur de mode, mais j'ai trouvé ça pas mal, un peu long, mais pas mal. Précisément, comme disait Constance, parce que ça parle moins de mode que d'histoire avec la France de l'occupation. Ça m'intéressait plus. Aussi, parce que comme toujours avec Apple, c'est très bien produit, hein, comme le disait François.
Oui, on voit l'argent bien investi.
On le voit à l'écran, il éclate au visage. Et puis voilà, j'avais une petite réserve, moi, sur le fait que tout le monde parle anglais. Je sais que c'est un sujet qui a déjà été abordé ici.
Ouais.
Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'était compliqué parfois de voir deux acteurs français interagir entre eux en anglais.
Oui, c'est un problème récurrent. Hein.
Ouais. Alors, The New Look, c'est seulement l'une des séries sur la mode en ce moment. Hein. On a aussi Balenciaga sur Disney+, qui est un biopic donc, sur le couturier venu du Pays Basque espagnol. Vient d'arriver sur Disney+, Becoming Karl Lagerfeld, sur les jeunes années du styliste allemand. On en attend encore une, La Maison, sur Apple TV+. Là, c'est Lambert Wilson qui est le créateur star et ça s'annonce plus comme une sorte de succession dans l'univers de la haute couture. À votre avis, et je vous pose la question à tous les trois, Benoît, Constance, François, qu'est-ce qui explique selon vous que les séries sur les créateurs de mode soient si tendances ? Qui veut se lancer en premier ? Allez, François. Allez, Benoît.
Alors, j'y vais. Alors, encore une fois, je ne suis pas un amateur de mode, mais je pense que les diffuseurs ont vite compris qu'il y avait un réservoir d'histoire assez, assez énorme, avec le très riche patrimoine français en matière de mode. Et il y a aussi un réservoir de fans, parce que le public de certaines séries plutôt féminines, comme Emily in Paris ou Sex and the City, est, je pense, ciblé par les diffuseurs. Et il n'aura pas échappé que parfois ce public repère des tenues dans les séries. Mmh. Il y a un site qui s'appelle Spotturn, que je ne connaissais pas. Et ensuite, les tracks en ligne, ces tenues-là, c'est arrivé par exemple avec une mini-jupe du personnage de Jules dans Euphoria. Mmh. Donc il y a un vrai réservoir, un vrai gisement de spectateurs.
Oui, il y a même des marques qui font qui passent des partenariats avec les séries pour être représentées dedans, puis pouvoir les acheter.
Alors dans The New Look, les maisons de couture refusaient qu'on copie. Donc ils n'ont jamais prêté une tenue. Le défilé de Christian Dior à la Sorbonne, on l'a vu en photo, donc on a répliqué les choses. Mais pour tout ce qui était de Coco Chanel, on devait faire du vrai-faux. On n'avait aucun modèle et on n'avait pas le droit de les faire. On a des photos de Coco Chanel, on n'avait pas le droit de les reproduire. Il fallait tenter de faire du vrai-faux. voilà, ou du faux vrai, ou, mais on ne devait pas, on avait interdiction et ils avaient un œil sur tout, sur toutes les tenues.
Et donc, vous, c'était une pression. Est-ce que c'est une pression supplémentaire finalement de travailler sur les costumes
non,
d'une série?
C'est un challenge. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Il faut se creuser la tête, chercher quelque chose qui peut ressembler à du Coco. Mais c'était Chanel, hein, c'était pas Dior. Mm. Et c'est très intéressant tout ça.
Dior, ils ont été plus cool.
Oui, 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 oui. Mais ils prêtaient rien. Ils ne, voilà, on avait le droit de rien utiliser de la maison Dior.
D'accord.
Et on n'a pas eu le droit d'aller tourner dans les ateliers Dior. Où on a, tout a été reproduit en, en studio. Et c'était vraiment magnifique. Vraiment très, très surprenant. Quoi. Pour ça, il y a des artistes, des artisans qui sont exceptionnels. Exceptionnels.
Constance, à ton avis, qu'est-ce qui explique qu'on aime autant voir les aventures de ces couturiers et grands stylistes?
En fait, moi, je pense que c'est un peu comme les Tudors ou Elisabeth II dans The Crown. C'est un peu nos têtes couronnées à nous. C'est des gens dont on connaît le nom, on connaît la marque, on connaît peut-être l'œuvre. Mais ce qui est intéressant dans ces trois séries, c'est qu'elles explorent leur vie qui est restée pour nous très mystérieuse. Donc, c'est un peu à chaque fois le récit des origines. C'est l'homme avant le succès et c'est tout ce qui, au fil de sa trajectoire, lui a permis de devenir, de révolutionner la mode. Et c'est à la fois partir sur une marque, une IP, et après nous dérouler peut-être des choses qu'on connaît moins, et en même temps, pour, on sait très bien que maintenant, sur les réseaux sociaux, sur les influenceurs, les marques sont très citées, donc pourquoi pas proposer à ce public-là, qui est certes jeune, mais qui n'est peut-être pas celui qui achète les produits de haute couture, mais quand même de leur proposer quelque chose qui leur parle. Je pense qu'il y a à la fois le fait qu'il y a beaucoup de documentation qui existe, et que c'est des personnalités à la fois connues et mystérieuses.
François Simon, vous...
Et le luxe? Le luxe, ça intéresse les gens.
Oui, c'est vrai.
Cartier, Dior, LVMH, tout ça. Tout ce monde-là, ça, c'est très intéressant.
Et alors vous, François, qui avez un avis de pro, est-ce que vous trouvez que ça reflète bien la réalité du métier de couturier, et notamment cet aspect collectif, vous le disiez, quand on fait des costumes et quand on fait de la haute couture, c'est oui. Pareil, on n'est jamais seul, en
on
fait, il y a
seul,
une armée de petites
exactement.
Mains.
Exactement, une brigade terrible. Quoi. C'est...
Et ça, dans les séries, vous trouvez que c'est plutôt représenté de façon pertinente?
Alors, dans The New Look, il y a ce côté historique où c'est assez passionnant de voir toute l'histoire défiler, et ce monsieur au milieu qui avait... Quand on regarde les photos de Christian Dior, il a plutôt un côté Bourville, Christian Dior. Il a pas ce, il est pas rock'n'roll, Christian Dior, mais une sensibilité terrible, quoi, une sensibilité. Et il est passé très vite. Il est mort en 57, donc ça a
oui,
été,
il est mort
ça,
très
a été
jeune.
Ça a été très rapide, quoi. Et c'est The New Look, quoi, quand même. C'est le nouveau look. C'est le nouveau look. C'est des choses, des belles robes, des choses très très riche, quoi, quand même, quoi. Et bon, ce qui me plaît, c'est qu'on parle, à ce moment-là, de notre travail. Du travail des gens, des petites mains, des... J'ai travaillé pour la haute couture, j'ai travaillé pour Gautier, j'ai fait des pièces pour Dior aussi. Voilà, c'est un monde de rêve, voilà.
Je crois que la série des trois qu'on va aborder qui, pour moi, montre ça le mieux, finalement, c'est celle sur Balenciaga, où on a vraiment l'idée du travail. Parce que aussi Balenciaga était lui-même un couturier, ce qui est rarement le cas en réalité des grands créateurs de mode. Lui était un couturier et on voit vraiment ce travail. Alors il y a tout un épisode, une histoire de plis sur du vison oui. Et tout ça. Et c'est là, je trouve, c'est peut-être la série sur laquelle on
plus
a
dans
le
métier,
plus,
quoi.
Voilà, qui rentre le plus.
Le vrai métier de l'atelier.
Exactement. Et puis je pense qu'en réalité, ces séries, effectivement, oui, on l'a déjà dit, mais ne parlent pas que de mode. La mode, finalement, est un peu une toile de fond, mais on essaie de percer le mystère de certaines personnes. On tente de radiographier une époque avec The New Look.
Avec
et c'est aussi
d'autres artistes, Cocteau, des gens qui apportent, Bérard, des artistes, Picasso, qui étaient dans le même mouvement. C'est la couture, bon, il y a du textile, mais c'est de la sculpture. Et Dior, il disait, c'est le tissu qui donne l'idée. C'est la matière qui va donner vers quoi on va aller, vers quelle création on va faire.
Voilà. Alors, la dernière série en date sur la mode, c'est celle-ci.
Qu'est-ce qu'il fout là, le teuton? Quand t'as pas de talent, tu viens pomper celui des autres.
Bonjour, monsieur Lagaffe.
Garde.
Monsieur. Avez-vous un style, monsieur Lagaffe?
Je pense que vous êtes un génie et que vous allez devenir le plus grand couturier du monde.
Si je te nomme directeur artistique, tu entres en compétition avec Yves Saint Laurent, tu donnes tout ce que tu as.
Jacques, on ne présente pas le fameux Pierre Berger, main de fer sans gants de velours.
C'est faux.
Alors, on vient d'entendre la bande-annonce de la série Becoming Karl Lagerfeld avec Daniel Brühl dans le rôle éponyme, mais aussi Arnaud Valois en Saint-Laurent, Alex Lutz en Pierre Berger, absolument intraitable, on l'entend au début de l'extrait. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de cette série?
Alors moi, je l'ai vraiment largement préférée aux deux précédentes. J'avais une vision assez lointaine, assez caricaturale, comme je pense pas mal de gens de Karl Lagerfeld. J'en étais resté au dandy poudré à Catogan, qui faisait des blagues sur les plateaux télé dans les années 2000. Et là, il y a un truc étonnant, c'est qu'il est plutôt sympa, Karl Lagerfeld, il est même très émouvant dans cette série. Alors, je ne sais pas si ça correspond à la réalité, mais en tout cas, c'est le cas. Et comme la série est quand même un grand jeu de massacre, avec un grand méchant Pierre Berger, qui est totalement détestable dans la série, Yves Saint-Laurent n'est pas très arrangé non plus, même Jacques de Bachère, c'est quand même pas parfait. Du coup, il apparaît très humain, très digne. C'est une sorte d'oasis de bienveillance dans cette série. Et puis, il est évidemment très très bien habillé. On est au cœur des années 70 et il a des looks absolument extravagants, magnifiques avec des broches, des lavalières, des cravates bouffantes.
Des bottes rouges.
Des bottes, l'éventail qui surgit dans le troisième épisode, je crois. Donc c'était visuellement, c'était un régal et pas que visuellement. Ouais.
Constance, ton avis?
Moi aussi, des trois, c'est celle que j'ai trouvée la plus entraînante. C'est-à-dire que Balenciaga et The New Look, elles sont très belles, mais je trouve très académiques. Et parfois, elles réduisent un peu leurs protagonistes à des poupées de cire dans le musée. Et je trouve qu'il y a une énergie dans Becoming Karl Lagerfeld qui est assez bien déjà montrée dans la première scène qui se déroule au son des Rolling Stones. Il y a un équilibre entre la vie créative de Lagerfeld et sa vie privée. Et alors, ce qui était étonnant, moi, je n'avais pas confiance, c'est que c'est un peu les liaisons dangereuses chez les couturiers des années 70. Quoi. Tout le monde va aller dans les mêmes soirées, se piquent leurs amants respectifs. Tout ce parcours intime était assez inattendu pour moi, parce que je ne le connaissais pas du tout. Et là où je rejoins Benoît, c'est que Lagerfeld a une façade qu'on ne lui connaît pas. Il n'a pas encore son armure, quel catogan, quel costume noir. Il y a encore une vulnérabilité. On sent très bien ce qui le bloque. Il y a beaucoup de choses qui le bloquent, la peur de l'échec, la peur de s'engager dans une relation, puisque ce que professe la série, c'est que très vite, sa relation avec Jacques de Bachère va devenir quelque chose de platonique, voire un peu d'autodestructeur parfois pour les deux. Et on voit aussi que c'est quelqu'un qui compense beaucoup en mangeant, ça suggère ses troubles alimentaires. Je trouvais qu'il y avait un dynamisme que je n'ai pas forcément retrouvé dans les séries qu'on avait citées auparavant.
Moi, je trouve très...
L'époque permet ça.
Oui, ouais. Tout à fait. C'est les années 70, c'est quand même assez, c'est assez pop.
Et alors, pour vous, en tant que couturier, pour vous, François, en tant que couturier, Karl Lagerfeld, il se situe où? Parce que ce que montre la série, et on l'a entendu un peu dans l'extrait, c'est que, mais en tant que couturier hors de la série, ce que montre la série, c'est que, en fait, pendant longtemps, il a été assez méprisé et on disait qu'il n'avait pas de style. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Pas du tout. Et c'est quelqu'un de très humain, très cultivé, ça on le sait tout à fait, mais quand il est en présence de... Il dit bonjour à tout le monde, car il disait bonjour à tout le monde. Mm. Tous les gens, les petits, les grands, et un amour.
C'est vrai.
Moi,
que...
je ne l'ai jamais rencontré, mais je connais des personnes qui ont des ateliers, qui ont travaillé pour lui. Il était généreux et très attachant.
Et on le découvre comme ça dans la série. Et alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est évidemment de faire le choix de se concentrer sur sa précarité. Enfin, c'était déjà une carrière, mais avant Chanel. Et découvrir ce qu'il a fait, notamment pour relancer la maison Chloé avec des robes très colorées qui sont finalement assez loin de ce qu'il a fait chez Chanel. Et en fait, c'était un vrai caméléon de la mode.
Ça tournait tout le temps.
Voilà. Et en même temps, un homme assez... Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette série. On le découvre assez inadapté au monde dans lequel il devrait s'insérer. C'est quelqu'un alors qui est entouré, donc Jacques de Bachère était son amant, c'était aussi quelqu'un qui adorait les orgies et la drogue, en gros, et c'était pas du tout le cas de Karl Lagerfeld qui apparaît
comme une espèce
très...
d'autiste.
Voilà, il est...
Un peu à l'écart,
et tout en regardant ce monde avec beaucoup d'intérêt,
et
ne s'y mêlait vraiment jamais.
Et s'en inspirant.
Voilà, exactement.
Je pense qu'il connaissait bien toutes les politiques de chaque maison dans lesquelles il a travaillé. Chez Chanel, c'était certainement comme ça. Voilà. Il a l'intelligence de la situation pour lui, quoi.
Exactement. Alors ça, c'est un thème qu'on retrouve dans plusieurs séries. On l'a dans Balenciaga aussi. Mmh. C'est est-ce qu'on reste dans la tour d'ivoire de la haute couture ou est-ce qu'on va un peu se dévergonder avec le prêt-à-porter ? Ça, c'est quelque chose dans votre carrière, François, que vous avez senti qu'il y a vraiment deux mondes qui se méprisent chacun l'un l'autre ?
Je ne pense pas, parce que chacun, même en haute couture, chacun utilise le travail de l'autre. Parce qu'il y a des choses qui sont faites pour aller plus vite. Il faut le prendre de l'industrialisation, des choses comme ça, quoi. Et de l'autre côté aussi, les coupes doivent être un peu travaillées suivant la haute couture. Donc on mélange. Et dans le spectacle, milieu que je connais assez bien, dans les ateliers, pour pouvoir proposer quelque chose d'efficace, il faut mélanger les deux. Donc un travail artisanal pratiquement de la haute couture, de la haute sur mesure, de la grande sur mesure, on appelle ça, et le côté industriel, parce que sur des moments, il faut aller très vite. Il faut faire les choses et on ne peut pas passer des heures, 400 heures. Une robe de mariée, c'est 400 heures de travail, c'est brodé, c'est chez Dior, voilà, c'est magnifique. Mais pour le cinéma, le théâtre, le spectacle vivant, on ne peut pas se permettre ça. Mais il faut que le rendu soit... égal.
Bah, surtout quand on doit imiter du Chanel.
Voilà, on essaye toujours d'être... que le vrai faux ou le faux vrai soit très précis quand même. Et on regarde. On s'intéresse à la couture. On s'intéresse à la mode. On s'intéresse à... C'est magnifique. C'est magnifique, les défilés. Alors, j'entends des fois, oui, on peut pas porter ça. Et alors, c'est une vitrine de l'artisanat. Comment on pourrait dire du savoir-faire français, des choses... l'excellence.
Est-ce que sur The New Look, il y a eu des pièces achetées ? Je sais que sur Balenciaga, par exemple, la chef costumière a trouvé quelques accessoires, en tout
Balenciaga.
Cas, quelques tenues. Elle en a acheté certaines. Très peu, hein. Elle dit que c'est très dur à trouver, mais plus des accessoires, des choses comme ça.
De toute façon, c'est le travail d'une costumière, d'aller chercher partout où elle peut, d'aller chiner, de trouver la petite pièce, la chose. Et c'est vrai que c'est un monde de luxe, donc on peut pas non plus acheter des choses, on peut pas acheter des choses fantaisie. Il faut que c'est de la gueule, je pense.
Et alors, si on vous demande de choisir entre Dior, Lagerfeld et Balenciaga, vous avez une préférence?
Lagerfeld. La folie du personnage. Je suis un peu jeune pour avoir connu Balenciaga ou Dior, mais Lagerfeld, quand même. Quel talent. Et puis, il n'arrêtait jamais de travailler. Vous disiez création pour Chloé, création pour Chanel, d'autres marques. Il était inépuisable, ce monsieur. Et puis, ce côté fou, quoi. Ce côté... je ne sais pas comment on dit. Un personnage. Un personnage, quand il parlait, tu parlais, Benoît, les plateaux de télé, les blagues, sa façon de parler, c'était incroyable, incroyable.
Et alors, dernière question pour vous trois, la série La Maison, qui arrive sur Apple TV+, est-ce qu'on a encore de l'envie pour une série qui se déroule dans l'univers de la mode, Benoît ?
Oui, pourquoi pas, notamment parce que c'est une proposition différente des trois précédentes. Là, on est vraiment dans une pure fiction, bon, inspirée peut-être de choses qu'on a vues dans le passé dans la mode. Parce que j'ai vu qu'il y avait Amber Wilson qui était dans une maison qui était forcée de se réinventer après la diffusion d'une vidéo impliquant un créateur star. Alors ça rappelle des choses qui sont passées dans des bars parisiens il y a quelques années, avec des remarques déplacées. John Galliano, pour ne pas le citer. Donc oui, moi j'ai plutôt envie de voir ça. Je suis curieux, même si pour l'instant c'est un petit peu opaque. On ne sait pas vraiment ce qu'on va voir.
Constance ?
Alors, je sais pas, je crois que j'ai peur de me tromper, mais je crois que le producteur, c'est Axel Berger du Bureau des légendes.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, ça, c'est, si c'est le cas, c'est plutôt un gage de qualité. Mais moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, de la coproduction entre France Télévisions et la BBC, qui s'appelait The Collection, qui était un peu une manière romanesque de raconter la naissance d'une MOOC, mais sans le nom des marques de l'époque. Et c'était quand même un peu bancal, et je sais pas vraiment si de la haute couture de fiction, ce qui suppose de recréer quand même toute une garde-robe à la hauteur, tient vraiment la route, en fait. Je trouve que ça, c'est beaucoup de travail.
Françoise Siméon, est-ce que vous n'êtes pas lassée de
non.
voir des...
Non, ça m'intéresse. Jamais.
Et quand vous regardez une série comme ça, j'imagine que vous prêtez une attention très particulière au costume.
Tout à fait, oui.
C'est quoi un bon costume?
Une coupe sur mesure, une couleur... Un détail, c'est et on sent tout de suite que le comédien se sent bien dedans, voilà, qu'il n'est pas écrasé par son costume, ni qu'il écrase son costume ou voilà, qu'il se sente une seconde peau et c'est très intéressant, c'est aussi passionnant parce qu'on est quand on fait des costumes de spectacle ou de cinéma, on est très dans l'intimité. L'intimité des comédiens, des gens, et on sent tout de suite. On sent tout de suite s'ils sont à l'aise, s'ils sont confortables. Et tout de suite, ils sont dans le jeu. Ils sont dans le personnage qu'ils doivent représenter. Et voilà. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Moi, je suis passionné de toute façon depuis très longtemps. Et j'adore quand on se met à parler de ce monde-là. De ce monde de la couture. Et puis, peut-être que ça va donner envie à des jeunes de commencer un travail à la couture, de faire des choses, de leurs mains. C'est apaisant aussi. C'est très apaisant. Moi, j'ai mis beaucoup de pensées dans mes costumes, en fait, que je fabriquais.
Il y a des comédiens qui disent, d'ailleurs, que rien qu'enfiler le costume, boum, ça les met dans le personnage.
Exactement. J'ai vu beaucoup d'acteurs, de comédiens qui... Enfilé, mais ils étaient dedans, tout de suite. C'était comme des enfants qui jouent à se déguiser, et plus c'est beau, plus ils sont contents.
C'est quand la dernière fois, à part pour The New Look, que vous vous êtes dit, en regardant une série ou peut-être un film, que là, les costumes étaient vraiment géniaux?
J'ai regardé Serpent Queen, quelques épisodes. C'est très... C'est la même créatrice qui a fait Karen Müller-Cero, mm-hmm. qui a
travaillé sur The New Look,
aussi. C'est très beau, mais c'est un peu trop. Bon, c'est peut-être l'époque,
c'est l'époque
aussi. Ouais. Mais j'aime bien les choses un peu plus patinées, un peu plus poétiques. Bon, la patine d'un costume, c'est la poésie. Pour moi, c'est de la poésie. On amène quelque chose, on met de la vie dedans, on met de l'histoire, et je trouve ça... Ce métier de patine, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, moi, ça m'a toujours assez ému de les regarder travailler, de voir les petites touches de couleur, de voir les petits détails, comment on plisse les poches, comment on plisse les manches pour donner de la vie. Ça sort pas du magasin. Voilà, ça a vécu. C'est intéressant.
C'est qui a déjà été porté.
Voilà, c'est de la vraie vie au cinéma, quoi. Série qui m'a le plus... je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu toutes les séries, de toute façon. Il y a une série très... vous devez connaître, mais je ne me souviens plus du... où il y a beaucoup de mecs anglais, avec des costumes taillés, mais les Anglais sont très forts.
Peaky Blinders, oui.
Oui, exactement.
C'est ça.
C'est soigné, c'est... On voit la matière, on voit le tissu, on voit... C'est anglais, les Anglais sont très forts sur tout ce qui est costume. On sent la matière, on sent l'épaisseur, la laine. Et moi, quand je travaille la laine, bon, les tailleurs, ils aiment beaucoup travailler des choses naturelles, la laine. Voilà, c'est drap de laine, c'est des choses. Moi, je respecte beaucoup le mouton, je respecte beaucoup l'éleveur, et je respecte beaucoup la personne qui a tissé. Parce que c'est encore magnifique. C'est des choses lourdes, magnifiques, ou avec des détails, avec des choses chinées, des choses. Et je trouve ça terrible. Qu'il y a encore du travail, encore. Les Italiens, ils sont très forts. Hein, des soieries, des choses plus légères, du lin, des choses
avec des coupes différentes. C'est, et tout, a des, tout le monde a sa personnalité là-dedans, et voilà. Bon.
Moi, je retiens votre belle phrase, la patine du vêtement, c'est la poésie.
La poésie, exactement.
La carte blanche de l'ACS.
Et c'est l'heure donc de la carte blanche. Et Benoît, je crois que tu as un petit coup de gueule à passer.
Oui, j'ai un petit coup de gueule sur cette agaçante manie contemporaine qu'on a, nous tous finalement, de vouloir relier chaque série à notre époque. Même si c'est une série historique, une série de fantasy, de vouloir à tout prix qu'une série nous parle de nous, finalement. Alors c'est pas nouveau, c'est pas spécifique aux séries, plutôt spécifique à toutes les œuvres d'art contemporaines, mais c'est toujours agaçant. Il y a une facilité journalistique, notamment chez nous, les critiques, à vouloir se servir de cet angle-là comme grille d'analyse systématique. Alors c'est vrai que qu'une série parle de notre époque, ça arrive souvent, mais c'est souvent pas le cas aussi. Ça arrive, c'est pas systématique. Donc c'est pas la peine de toujours vouloir faire entrer au chausse-pied chaque fiction dans une grille de lecture. C'est un lieu commun qui empêche parfois de réfléchir sérieusement sur une œuvre, qu'elle soit mauvaise ou pas d'ailleurs. On est d'accord, Margot, Constance, François, que l'œuvre d'art ne se réduit pas à un message et que le sens que nous accordons à une œuvre s'avère souvent très loin de l'intention originelle de l'auteur. Une série peut ne pas parler de notre époque. Elle a le droit. Même une série contemporaine peut ne pas le faire. Il faut ficher la paix aux séries. Alors, par exemple, Game of Thrones et ses personnages féminins, qui sont souvent très forts, hein, parlent-elles forcément de la place des femmes dans nos sociétés actuelles ? Pas forcément. Walking Dead est-elle une parabole sur notre besoin de réduire notre consommation de viande ? Pas forcément. L'agence Tourisque était-elle une métaphore de notre besoin de faire communauté ? Pas forcément non plus. Alors ce mois-ci, pendant le mois de juin, je pense qu'on va nous refaire le coup avec My Lady Jane, par exemple, qui parle d'une une dystopie sur Lady Jane Grey, qui était une reine du XVIe siècle. Est-ce que c'est féministe ? Honnêtement, je ne l'ai pas vu.
Et qui a été décapitée. Alors, ça n'a rien à voir avec l'historique. Il y a même un passage complètement de fantaisie qui est assez drôle. Et ils ont même remplacé le clivage protestant catholique par autre chose de très inattendu.
Donc rien à voir avec notre époque.
D'accord, on a pourtant hâte de la voir. Mais, House of the Dragon, elle est chouette, ouais, on a très hâte de la voir. Alors, House of the Dragon, est-ce que ça part de la crise politique actuelle ? Je pense pas, c'est juste un récif de fantasy. Et même Star Wars, The Acolyte, est-ce que ça parle de la montée du côté obscur, du fascisme ? J'en suis pas persuadé. Alors à l'arrivée, c'est assez insultant pour le pouvoir de la fiction, le pouvoir des histoires, car une bonne fiction se suffit elle-même. Elle n'a nul besoin qu'on nous explique ce qu'il fallait comprendre ou ne pas comprendre. Une bonne fiction, ça sait marcher sur ses deux jambes. Et si elle est mauvaise, il n'y a aucune raison de l'aider à marcher. Et ce qui est drôle quand on est journaliste, c'est qu'on sait comment ça fonctionne. Donc on a plutôt tendance à faire ce genre de choses. Alors on va plutôt procéder à l'envers. On va préparer son papier, son interview, en cherchant cette explication. Comment est-ce qu'on va faire pour la tirer vers notre époque ? Et le plus drôle, c'est quand on interview quelqu'un qui a réalisé ces séries et qui est lui-même surpris de notre grille d'analyse. Il y en a une petite surprise, une petite lueur dans l'œil qui dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» et puis finalement, pour avoir l'air intelligent, on dit « Oui, c'est vrai, c'est bien ce que j'ai voulu dire. Vous avez raison, monsieur, tout à fait. » Alors, ça me rappelle un article que j'avais lu il y a quelques années dans un magazine donc, que je ne vais pas citer. Il n'était pas signé, donc j'espère qu'il n'était pas signé par vous, sinon je vais être un petit peu mal à l'aise. Mais ça parlait de 5 séries palpitantes, miroirs de notre époque, c'était le titre. « Bloodlands »,« Moi, Christian F. »,« La servante écarlate »,« Le serpent, Mosquito Coast ». 5 séries assez différentes, vous l'admettrez. Et finalement, en lisant le papier, on ne savait même pas ce qui reliait ces séries, même pas pourquoi elles parlaient de notre époque. Ça n'était pas du tout expliqué. C'était un peu la grande foire-fouille des séries.
C'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est pas grave.
C'est pas vous, je suis rassuré, j'avais des gouttes de sueur qui perlaient sur le front. Alors voilà, la lecture n'est pas toujours évidente. Donc cessons de charger les œuvres de nos fantasmes, de nos lubies. Et je vais finir en citant un corrigé de Bac Philo que j'ai trouvé sur Internet, hein, je ne vais pas vous mentir sur mes sources. Le sens de l'œuvre d'art est multiple, il est complexe. On ne peut que s'étonner devant la richesse et la finesse infinie des commentaires des œuvres d'art. Ceci s'explique par le fait que l'œuvre d'art n'est pas seulement un objet fabriqué artificiellement par l'homme qui aurait forcément une utilité, qui se fonderait sur une signification. L'œuvre d'art a la faculté étonnante de vivre sa propre vie, d'interroger le spectateur et de provoquer en lui de nouvelles émotions à chacune de ses rencontres.
Eh bien, on va finir sur ce corrigé de Bac Philo. C'est la fin de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci à Benoît Franquebalm, à Constance Jamet et bien sûr à notre invité François Siméon. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous broder 5 étoiles ou trousser un joli commentaire qui nous ira comme un gant. À bientôt.
Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.